autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche? Charlie Dupiau.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Hugo Violas à la réalisation pour tenter aujourd'hui de comprendre un animal de compagnie qu'on pensait bien connaître et pourtant le chat. On lui prête des traits humains, on aime le câliner, l'observer, on en oublierait presque sa nature de prédateur. Notre invitée Jessica Serra, éthologue spécialiste de cognition animale, a voulu en savoir plus. Elle publie l'ouvrage Dans la tête d'un chat, véritable manuel sur un animal finalement assez méconnu des scientifiques, lui qui coopère, il faut le dire, difficilement aux tests de comportement et aux recherches à son sujet. Alors qu'avons-nous en commun avec nos amis félins? Et qu'est-ce qui les singularise et leur appartient? Comment voient-ils le monde, leur monde? Autour de la question, que se passe-t-il dans la tête d'un chat? Bienvenue.
Je me demande ce qui se passe dans la tête des chats. Par exemple, j'ai acheté un panier à mon chat, un beau panier de haute qualité, et il dort dans les vitres.
Qu'est-ce qui fait que les chats ont gardé cet instinct de prédateur alors qu'on les cocoon, on les choye et ils restent à la maison normalement?
Sur l'ensemble des chats qu'on a traqués, vraiment Queenie est unique dans le sens où c'est le seul chat qu'on a vu ne pas sortir la nuit alors qu'elle a la possibilité de le faire.
Si le chat a la queue verticale, ce qu'il est en confiance.
Dans le service des malades d'Alzheimer, un des chats, Oscar, semble savoir quel patient sera le prochain à mourir.
Lorsque le processus de fin de vie débute, il va entrer, sauter sur le lit, renifler et se frotter contre la personne. Lorsqu'il sent que c'est le moment, il revient et il se couche sur le lit.
Ça passe, chat ! Allez, ça va comme ça, Minou.
On sait que le chat va s'adapter au rythme d'activité, notamment de l'être humain qui va partager la maison avec lui.
Le chat se rend-il compte de sa propre paresse?
Mix très félin réalisé par Hugo Violas. Bonjour Jessica Serra.
Bonjour.
Étonnamment, il existe peu de littérature scientifique sur les chats.
Oui, en fait, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, on va dire, on avait quasiment rien sur le sujet. C'était vraiment très étonnant parce que quand j'ai débuté ma carrière d'éthologue, je me suis intéressée aux animaux de compagnie en général. Donc j'ai regardé notamment ce qu'il y avait sur le chien et on avait une littérature très dense. Donc beaucoup d'articles scientifiques publiés sur le chien et quasiment rien sur le chat.
Et c'est donc avec votre casquette d'éthologue que vous êtes penché sur les chats. L'éthologie, pour le rappeler rapidement, c'est l'étude scientifique du comportement des espèces animales. Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, chez le chat?
Alors, chez le chat, justement, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on avait un tas de croyances populaires, souvent infondées, qui circulaient autour du chat. Pourquoi? Parce que c'est un animal avec lequel on vit au quotidien. Et donc, on croit souvent, à tort, tout connaître de lui. Alors, il y a évidemment une part de mystère et qui va, on va dire, intriguer le propriétaire. Mais il y a aussi des croyances qui perdurent. Et finalement, quand on a regardé, avec mon regard de chercheur, quand j'ai regardé la littérature, on n'avait rien. Donc, ces croyances, elles étaient venue un peu de légendes, de différents mythes. Il y a même eu un lien entre la religion et ce qu'on a cru des chats à un moment donné. Bref, un amoncellement de choses qui sont cumulées autour du temps, mais qui n'avaient aucun fondement scientifique.
Quelles croyances on a aujourd'hui, par exemple?
On en a beaucoup. Alors, il y a des superstitions, notamment par rapport au chat noir.
Qui porte malheur.
Ça nous paraît fou, mais il y a plein de gens qui n'adoptent pas les chats noirs qui porteraient malheur. Et les refuges se retrouvent contraints à devoir gérer toute cette population de chats noirs sans malheureusement qu'ils trouvent d'adoptants.
Alors, je vous propose de revenir un petit peu sur l'histoire du chat. Les premiers félins sont apparus sur la planète il y a 34 millions d'années déjà, avec une figure emblématique d'époque préhistorique, c'est le smilodon.
Oui, alors le smilodon, j'ai souhaité en parler dans mon ouvrage parce que tout le monde le connaît au travers d'un célèbre film d'animation, L'Âge de glace, c'est le fameux tigre à dents de sabre. Et ça parle à tout le monde quand on parle de cette figure préhistorique. Tout de suite, on se dit, ah, c'est l'ancêtre de notre chat d'aujourd'hui. Alors, c'est pas directement l'ancêtre, c'est un cousin, on va dire. Mais j'ai souhaité en parler pour montrer finalement l'ancienneté des félins sur notre planète et montrer que finalement, même à l'échelle humaine, enfin l'évolution de l'être humain, quand on compare à cette échelle de temps, elle est vraiment minime par rapport à l'échelle de temps des félins. Et que donc les félins sont sur Terre, ont été sur Terre bien avant nous et que leur évolution méritait vraiment d'être investiguée. Et c'est pour ça que j'ai souhaité en parler dans mon ouvrage.
Une question qui se pose, c'est la domestication du chat. Jean Denivine est archéozoologue et directeur de recherche au CNRS. Il nous raconte une curieuse découverte.
À Chypre, en début des années 2000, sur la fouille de Chilles Rocambos, que dirigeait Jean Guilaine et sur laquelle je travaillais avec lui, on a découvert une tombe humaine avec un chat enterré avec l'humain. Et le rituel montre très clairement que ce chat n'était pas l'espèce chat, c'était un individu chat qui accompagnait l'homme dans l'au-delà. Ça veut dire qu'il y a un lien étroit. De quelle nature exacte? On ne sait pas. C'est pour ça qu'on a employé prudemment le mot apprivoisé. Et encore, je ne suis même pas sûr que ce soit le mot qu'il faille employer. On ne peut sans doute pas parler de chat domestique, parce que le chat en question, c'est un bon gros chat qui a un format de chat sauvage. Mais ce dont on peut parler, c'est effectivement de processus de domestication. Alors ça, c'était la plus ancienne relation homme-chat connue, hein, qui est datée aux alentours de 7000 avant Jésus-Christ, 7000-7500. Et depuis, les fouilles que nous menons toujours à Chypre, mais sur un autre site, plus ancien de plus de 1000 ans, montrent que le chat a été introduit depuis le continent, par bateau lui aussi probablement, et que cette relation homme-chat finalement est beaucoup plus ancienne encore que cette tombe. Elle a débuté très probablement au tout début de l'agriculture. J'ai écrit dans un petit bouquin que le chat était l'animal domestique des agriculteurs parce que le scénario qu'on imagine et qui s'étaye de plus en plus, c'est que l'agriculture provoque l'accumulation de stocks et de déchets agricoles qui attirent les rongeurs dans les villages. Et les prédateurs naturels de ces rongeurs, ce sont les petits carnivores, en particulier le chat, qui s'est auto-domestiqué d'une certaine manière. Il est rentré dans les villages de l'homme parce qu'il y avait à manger. Et très rapidement, sans doute, le processus a été renforcé par une intentionnalité de la part de l'homme.
Alors pour Jean Denivine et son équipe, la domestication du chat pourrait dater d'il y a plus de 10 000 ans, alors qu'on pensait, d'après des restes archéologiques, que le chat avait été domestiqué en Égypte antique, il y a 3 500 ans.
Exactement, ça a été une vraie surprise et leur découverte est majeure. Donc j'avais suivi de près leurs travaux parce que vraiment ça a révolutionné notre regard sur la domestication. On l'a daté à l'Égypte antique parce qu'on avait retrouvé des peintures murales de chats, à Thèbes notamment. Et cette découverte a été vraiment révolutionnaire. Parce que finalement on a remonté le cours du temps, le fil de la domestication, et aujourd'hui effectivement on date ces prémices de la domestication à environ 10 000 ans. Donc il y a eu notamment cette découverte archéologique de l'équipe de Jean Denivine et de son collègue Jean Guilaine. Mais il y a également d'autres découvertes qui ont été faites par des paléogénéticiens notamment, qui sont intéressés à l'ADN mitochondrial du chat et qui ont pu aussi remonter le fil du temps et estimer cette datation des prémices de la domestication à environ 10 000 ans.
Le chat était sacré en Égypte antique et puis le Moyen-Âge a été le début d'une extermination massive des chats, vu comme l'apparition du démon, vous le racontez dans le livre.
Oui, alors c'était très important pour moi de souligner ce point-là parce que la relation homme-chat n'a pas toujours été rose. Bien au contraire, elle a été marquée par des phases d'amour, de désamour, de haine même, ou d'adoration. Et on l'oublie trop souvent parce qu'aujourd'hui, effectivement, le chat est très aimé à travers le monde, pas tous les pays, mais on va dire dans les sociétés occidentales notamment, le chat est devenu un véritable membre de la famille, en oubliant qu'il y a 200-300 ans, par exemple, on consommait encore du chat en France lors des pénuries pendant la guerre, en oubliant également qu'au Moyen-Âge, le chat incarnait, en tout cas à partir de la bulle pontificale qui avait été écrite par le pape Grégoire IX, si ma mémoire est bonne, c'est un écrit d'un pape qui parle de pacte satanique fait par des hérétiques, et il évoque très clairement le fait que le diable s'incarne dans le corps d'un chat noir. Et donc toutes ces croyances dont on parlait tout à l'heure, hein, ces fameuses superstitions qui sont encore présentes aujourd'hui, donc on va dire un millénaire plus tard, c'est pas rien, c'est vraiment inscrit dans notre mémoire collective, c'est le chat a été pourfendu, le chat a été torturé pendant des siècles, et l'Église catholique a joué un rôle dans cette vision, on va dire, négative qu'on a eue du chat. Et il y a toute une thèse de doctorat, un travail qui avait été mené par une thésarde sur le lien entre la vision, enfin la relation homme-chat qui s'est transformée au Moyen-Âge par le biais des écrits des papes et puis de l'Église catholique qui chassait les hérétiques et qui associait les chats à cette image de pacte de Satan, etc. Et ensuite, ça s'est ancré encore plus dans la superstition.
Et c'est vraiment au XXe siècle que notre engouement pour les chats a vraiment commencé ?
Alors oui, l'engouement pour les chats, il a commencé un peu plus tôt quand même, parce que on avait notamment Richelieu qui aimait beaucoup les chats, et on va dire qu'à cette époque, le chat va redorer son image en étant associé à l'aristocratie notamment. Richelieu, il avait, je crois, une quatorzaine de chats. À sa mort, il leur a tout légué, c'est dire l'amour qu'il leur portait. Et ensuite, on a Louis XV qui aimait également, alors un peu plus tard, hein, mais qui aimait beaucoup les chats, notamment de race angora blanc, qui en avait plusieurs dont il prenait soin. Bref, le chat est associé cette fois-ci à l'aristocratie et à quelque chose de noble. Donc il redevient un peu à la mode. Et au 19e siècle, on a vraiment un engouement qui est très très fort pour le chat. Le chat va devenir vraiment un être inspirant pour les poètes, pour les écrivains. On pense notamment à Victor Hugo et à son chat chanoine, mais il y a tout un tas d'écrivains d'un chat sauvage africain qui s'appelle le chat ganté, qui est du nom savant latin Felis silvestris libica. Donc voilà, ça c'est. Et que tous les chats domestiques sont une sous-espèce en fait de ce chat africain.
Qui avait la robe brune,
oui,
des rayures noires.
Et des rayures noires. Et c'est d'ailleurs une caractéristique qu'on retrouve chez tous les chats d'Égypte, en Égypte antique. Les chats en Égypte antique n'avaient pas encore les robes qu'on leur connaît aujourd'hui et n'avaient pas des pelages unis comme aujourd'hui on voit des chats de beaucoup de couleurs différentes qui arborent de magnifiques pelages. Mais à l'époque, c'était, leurs caractéristiques physiques étaient somme toute assez semblables avec une robe effectivement à rayures noires qui tiré plutôt entre le jaune et le brun.
Vous nous décrivez la façon dont le chat perçoit le monde, une perception bien singulière. Il a gardé les mêmes sensorialités, les mêmes aptitudes que son ancêtre sauvage.
Alors, ce qui est vraiment incroyable dans le processus de domestication du chat, et c'est pour la raison aussi pour laquelle certains scientifiques mesurent le terme domestication en parlant d'autodomestication, en disant non mais on peut peut-être même pas parler de domestication parce que c'est un animal qui a vécu un processus de domestication tellement unique, tellement à part. Pourquoi ? Parce qu'il a conservé quand même pas mal de ses caractéristiques sauvages. D'abord, d'un point de vue apparence physique. Finalement, quand on regarde aujourd'hui les chiens domestiques, aujourd'hui, du chihuahua jusqu'au berger allemand, on se rend compte qu'on a sélectionné des races extrêmement diversifiées et qu'on passe d'un extrême à l'autre, alors que nos chats domestiques ont finalement une apparence assez similaire. Bien que effectivement ils sont plus diversifiés, hein. Il y a de plus en plus de races d'ailleurs qui sont créées même encore aujourd'hui. Mais leur apparence physique est somme toute assez similaire à celle de leur ancêtre sauvage, et pas seulement, puisque ils ont conservé leur aptitude de chasseur, donc leur aptitude à être des prédateurs, à tuer des proies, ce qui n'est pas au goût des propriétaires d'aujourd'hui forcément. Alors que pendant des millénaires, c'est ce que l'homme attendait du chat. Qu'il sache faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire tuer des rongeurs, qui étaient vraiment une espèce invasive pour les êtres humains à l'époque.
Alors pour chasser, justement, et pour communiquer, le chat utilise les odeurs. Il a de vraies capacités olfactives.
Oui, alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai souhaité souligner dans mon ouvrage. Les animaux, si on considère les différentes espèces animales, on oublie trop souvent que chaque espèce a ce qu'on appelle son propre umwelt, dans un langage un peu scientifique, mais ça signifie que chaque espèce est évolue dans un monde qui lui est propre. Chaque espèce a ses propres sensorialités et donc va percevoir le monde à sa manière. C'est-à-dire que la réalité telle que nous la voyons, nous, en tant qu'être humain, nous la percevons avec nos propres sensorialités. Nous voyons un monde qui est haut en couleur, nous sentons certaines odeurs. Bref, nos sensorialités nous permettent d'édifier une représentation mentale du monde dans lequel on vit. Et les espèces animales vont fonctionner de cette manière-là aussi, mais avec leurs propres sensorialités, ce qui signifie finalement qu'elles ont leur propre réalité et qu'on oublie trop souvent qu'il y a une pluralité de ces réalités, de ces existences, et que on a, c'est un défaut que tous les êtres humains ont, hein, parce qu'on est une espèce qui fonctionne comme ça, mais on va souvent anthropomorphiser l'animal à l'extrême. Et avoir tendance à
donc
penser...
Donc le comparer à l'homme.
Exactement, que l'animal perçoit le monde de la même manière. Et c'est pour ça que parfois on a beaucoup de mal à interpréter certains comportements, parce qu'au lieu de se mettre à la place de l'animal et de l'environnement dans lequel il évolue, on reste sur nos perceptions purement humaines.
Et alors comment s'établit la communication olfactive? On sait que le chat sélectionne par exemple sa nourriture d'abord par rapport à l'odeur.
Oui, alors le chat n'est pas un fin gourmet par rapport à sa sensibilité gustative. On sait qu'il a beaucoup moins de ce qu'on appelle les bourgeons gustatifs par rapport à l'homme par exemple. Donc il n'est pas très bon en termes de discrimination, on va dire, des goûts. En revanche, il est extrêmement fort pour tout ce qui est discrimination olfactive. Donc c'est d'abord sur des critères olfactifs qu'il va sélectionner sa nourriture.
Et quand on parle de la vision des chats, il y a beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes. Alors le chat ne discerne correctement que le bleu et le jaune, il ne fait pas la différence entre le vert et le rouge, mais il ne vit pas non plus dans un monde en noir et blanc.
Oui, tout à fait.
Vous parlez de couleurs pastel.
Oui, on a longtemps pensé que beaucoup d'animaux voyaient le monde en noir et blanc, c'est souvent faux. La majorité des animaux voient certaines couleurs, le chat en fait partie, et le chat aurait une vision plutôt pastel du monde. Alors effectivement, il a une vision qui est beaucoup moins haute en couleurs que la nôtre, mais qui est finalement très adapté à son statut de prédateur. Lui, en revanche, il va être beaucoup plus doué pour percevoir notamment les mouvements. Donc, il a une perception très, très fine du mouvement. Donc, il va détecter une proie à distance et ça va lui permettre de localiser avec une grande précision, par exemple, un rongeur et de s'attaquer à sa proie de la manière la plus efficace possible.
Et il voit un monde invisible à nos yeux, d'humains.
Oui, tout à fait. Alors là encore, on en revient à ce fameux Umwelt. On pense que finalement, ce qu'on voit du monde, ça représente la réalité physique du monde. Or, il y a plein d'animaux qui voient des choses que nous, on ne voit pas, qui existent aussi. Et notamment, le chat est capable de voir ce qu'on appelle dans la lumière ultraviolette, donc qui est un monde totalement invisible à nos yeux, qu'on appelle, nous, la lumière noire, tant on ne discerne rien de ce monde. Et cette lumière ultraviolette, alors on n'a pas encore investigué chez le chat sa fonction biologique. On ne sait pas avec certitude à quoi ça lui sert de voir la lumière ultraviolette. Ce qu'on sait, c'est simplement on émet des hypothèses et on pense que ça lui permettrait de voir des sécrétions biologiques. C'est-à-dire qu'en plus des indices olfactifs qui lui permettent de tracer avec précision ses proies, les rongeurs, etc., il utiliserait cette fonction visuelle pour suivre les traces urinaires de rongeurs, par exemple, ou des traces laissées par des congénères, donc des traces biologique.
Il peut aussi bien voir avancer dans l'obscurité.
Oui, alors ça c'est fantastique parce qu'effectivement il bénéficie de ce qu'on appelle c'est une petite membrane qui est à l'arrière de la rétine, qui est très très utile pour lui et qui d'ailleurs fait que souvent les gens disent « Ah mais mon chat il a des yeux fluorescents ou phosphorescents dans la nuit qui réfléchissent la lumière ». En fait cette petite membrane s'appelle le tapetum lucidum. C'est une membrane qui va permettre de capter la lumière par réflexion et l'animal va être en mesure de voir ainsi grâce à cette membrane dans l'obscurité. Donc il perçoit tout un monde de détails, encore une fois, qui nous est totalement inconnu.
Alors on va continuer notre tour d'horizon des sens du chat. Les chats sont l'un des mammifères les plus performants en termes d'ouïe. Ils sont capables de détecter des sons plus graves, mais aussi beaucoup plus aigus que nous, les
exactement.
Hommes.
Alors j'ai vraiment souligné ce passage-là aussi, parce que non seulement ils sont capables de détecter ce qu'on appelle les ultrasons, mais c'est parfaitement adapté à leur statut de prédateur. Et notamment de prédateurs de rongeurs, parce qu'on sait que les rongeurs communiquent énormément à l'aide d'ultrasons. Alors là encore, en tant qu'être humain, quand on entend des souris qui grignotent dans notre grenier, ça nous agace déjà parce qu'on sait qu'il y a des souris, mais on les entend simplement grignoter. Il faut s'imaginer que dans l'univers du chat, dans son monde à lui, comme il est capable d'entendre les ultrasons, il est capable d'entendre tout un tas de communications entre rongeurs, parce que les rongeurs Et j'en parle aussi, les rongeurs n'ont rien à envier, par exemple, au chant des oiseaux. On a beaucoup, beaucoup de chercheurs qui ont mené des investigations sur les capacités de communication entre rongeurs. Et on voit que, par exemple, les petits souriceaux cantinès, ils communiquent avec des gazouillis dans le domaine de l'ultrason avec leur mère, que les mâles souris sont capables d'émettre des chants nuptiaux pour attirer les faveurs de femelles. Bref, on a vraiment une communication qui est très, très élaborée chez les rongeurs dans le domaine de l'ultrason, qui nous échappe à nous, être humains, totalement.
Mais qui n'échappe pas au
chat. Pas du tout au chat. On peut s'imaginer que lui, ce qu'il entend toute la journée dans le grenier, c'est une cacophonie ultrasonique qui certainement excite ses sens de prédateur et qu'il n'a qu'une envie, c'est monter au grenier et se faire ses petites proies bien alléchantes. Voilà.
Saviez-vous que les chats pouvaient avoir la maladie d'Alzheimer et des pertes de mémoire, qu'ils ne savaient pas détecter la saveur sucrée? Tant de choses à apprendre encore. Et si nous avions le pouvoir de comprendre le parler des chats? Richelieu, c'est signé Thomas Fersen et c'est maintenant sur RFI.
En me léchant l'oreille, un chat me donna le pouvoir de comprendre le parler des chats. J'adoptais leurs petits jeux et leurs étranges coutumes. Je léchais mes Richelieu et mon costume. Je rôdais au cimetière sous les grands arbres. Je passais entre les pierres, entre les marbres. Je sautais dans le jardin de la voisine et je volais du boudin à la cuisine. En me léchant l'oreille, un chat me donna le pouvoir de comprendre le parler des chats. J'aimais bien qu'on me caresse sous le menton les poutous de sa maîtresse à son chaton. Oh, le joli poisson rouge, le canari. Je sautais sur tout ce qui bouge, pauvre souris. J'ai fait tout ce que j'ai voulu dans le quartier. Bientôt on ne compta plus mes héritiers. Au lieu de me donner du lait, on commença à prétendre qu'il fallait couper le chat. Cela me rendait nerveux pour mes valseuses, car les chats n'en ont qu'un jeu, elles sont précieuses. Et voyant dans la détresse son petit chat, mon adorable maîtresse se dépêcha de me lécher l'oreille et le français remplaça le pouvoir de comprendre le parler des chats. Je cessais mon petit jeu et la bizarre coutume de lécher mes Richelieu et mon costume. De lécher mes Richelieu et mon costume. Mais je n'en restais pas moins un chaud lapin.
Nous sommes en compagnie de Jessica Serra, éthologue qui publie tout juste le livre « Dans la tête d'un chat ». Chers auditeurs, si vous souhaitez recevoir un exemplaire de cet ouvrage, n'hésitez pas à nous écrire dès maintenant sur notre page Facebook autour de la question. Alors le chat est le seul animal qui soit arrivé à domestiquer l'homme. Ce sont les mots de l'ethnologue Marcel Mauss que vous citez dans votre livre, Jessica Serra. Je vous propose d'écouter maintenant la parole de Joël Dehaas. Il est vétérinaire comportementaliste. Il a publié le livre « Tout ce qu'il faut savoir sur le chat » aux éditions Odile Jacob, et il revient pour nous sur les principaux problèmes de cohabitation, car il y en a, entre l'homme et le chat.
Ce dont on se plaint le plus, c'est la malpropreté chez le chat et les marquages urinaires, et les agressions fréquemment retrouvées chez les chats à l'intérieur de la maison, dans les appartements, sont en fait des comportements de chasse redirigés sur les humains. Le chat doit chasser chaque jour, plusieurs heures par jour, et s'il ne peut pas chasser, ben il va chasser quelque chose qui bouge, et fréquemment, par crise, il attend derrière un meuble caché que les propriétaires rentrent, et brusquement, il saute dessus. Et attaque les jambes, et attaque les pieds, ou bien il reste dans un escalier, et attaque la tête, ou il attaque les pieds ou les mains quand on bouge la nuit, dans son lit. Et donc, le chat essaie de satisfaire ses besoins de chasser et capturer sur les propriétaires. Et donc c'est un gros problème du chat d'appartement, beaucoup moins sur un chat qui sort à l'extérieur, qui va en jardin et qui peut chasser, qui peut passer des heures.
Et ce, même s'il s'agit de son propriétaire, donc de quelqu'un qu'il a l'habitude de voir.
Oui, c'est-à-dire qu'à certains moments, le besoin du chat de chasser est tellement important qu'il ne reconnaît plus le propriétaire. Il ne voit plus que le pied et la cheville qui bougent dans l'appartement. Il est focalisé là-dessus comme si c'était un oiseau. Puis Il guette, il est à l'affût, et puis il se précipite, il capture. Et puis comme la cheville crie fort, il s'enfuit. Et donc ça, c'est un des problèmes à régler en donnant d'autres formes d'activité au chat, en essayant de rediriger les comportements de chasse, en jouant à chasser avec son chat, avec des lasers, avec des plumes, avec des cannes à pêche, avec toute une série d'éléments qui permettent au chat de chasser à distance.
C'est-à-dire concrètement, alors par exemple, avec des plumes, comment on fait?
Voilà, une plume au bout d'une ficelle pour faire en sorte que le chat puisse poursuivre la plume, la capturer, sauter, etc. Et puis on termine en général dans la gamelle, où on termine sur un aliment à manger. Comme ça, le chat peut assouvir en même temps la capture et la satisfaction alimentaire.
Ce qui est intéressant, c'est que vous dites que le chat, même domestique, reste un prédateur.
La plupart des chats sont croisés d'un chat errant, sauf les chats de race depuis plusieurs générations, mais la plupart des chats de famille sont des chats qui ont au moins un parent chat errant. Donc chat retourné à l'état sauvage, chat capable de survivre tout seul dans la nature. Et donc ils ont tous, à peu près tous, gardé. Je dirais 90% des chats ont gardé un comportement de chat capable de survivre dans la nature par eux-mêmes.
Vous qui êtes vétérinaire comportementaliste, quel est le comportement qui vous étonne le plus chez les chats?
Le comportement qui m'étonne le plus chez le chat, mais chez chat et chien, c'est leur empathie. Mais ce n'est pas tellement un comportement, c'est un état d'être, de reconnaissance de la souffrance d'autrui.
À quoi on la voit, cette empathie-là, chez les chats?
Alors chez les chats, on voit souvent le chat qui vient, par exemple sur le ventre de la maman enceinte, quand le bébé est agité, et le chat vient et se met à ronronner sur le ventre, et puis le bébé se calme.
Là, on parle de son rapport aux humains.
Oui, par rapport aux humains. On voit aussi l'empathie quand le chat vient, quand la personne est malade, et le chat vient lui tenir compagnie. L'éthologie s'intéresse au chat de façon collective, tandis que le médecin vétérinaire s'intéresse au chat avec ses problèmes de comportement, le chat en individuel. Et l'éthologie va nous aider pour ça à déterminer quels sont les besoins de ce chat, pour prévenir les problèmes de comportement. Les problèmes de comportement du chat étant dus à 80% à l'ennui, à la non-satisfaction des besoins comportementaux.
La parole de Joëlle Dehasse, vétérinaire comportementaliste. C'est là, en fait, Jessica Serra, qu'on comprend que vos deux disciplines se rejoignent.
Elles sont très complémentaires, en fait. Effectivement, moi, je vais plutôt être en amont. Les chercheurs sont réellement... L'ambition d'un chercheur, c'est d'apporter de la connaissance. C'est-à-dire qu'on va mener effectivement des études d'envergure sur un certain nombre d'individus et pouvoir émettre des conclusions scientifiques qui nous éclairent et qui alimentent en fait nos connaissances sur le comportement animal de manière générale. Le vétérinaire comportementaliste, lui, va pouvoir utiliser ses connaissances pour prodiguer du soin, pour prodiguer du conseil à l'animal. Mais finalement, l'éthologue, lui, il est dans l'observation du comportement, mais il n'est pas dans le soin. Donc, c'est la différence majeure entre nos deux métiers qui sont pour autant très complémentaires.
Et vous l'écrivez, hein, les chats ont leur personnalité individuelle.
Oui, alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai souhaité aussi souligner parce que pendant des années, voire des siècles, on ne s'autorisait pas à parler de personnalité chez l'animal. C'était l'apanage de l'être humain. C'était quelque chose qui supposait l'existence aussi d'une individualité et d'un système émotionnel sous-jacent. Donc, quelque part, on pensait que les animaux allaient tous réagir de la même manière à une situation donnée. Et finalement, les travaux en éthologie ont révolutionné notre regard sur les animaux, puisqu'on a montré que l'existence de la personnalité, c'était quelque chose d'extrêmement commun au sein d'un animal, que chaque animal a sa propre personnalité, et que même c'est quelque chose qui, d'un point de vue de l'évolution, a une vraie plus-value, parce que si tous les animaux réagissaient de la même manière à une situation donnée, on peut bien imaginer qu'en termes de survie, si vous avez un danger et tout le monde se jette face au danger, eh bien, il n'y aura pas beaucoup de chances de survie pour ces animaux-là. Donc le fait d'avoir des animaux plus ou moins aventuriers, plus ou moins timides au sein d'une même espèce, ça va notamment permettre d'avoir une meilleure survie, un taux de reproduction, en tout cas des individus qui vont avoir plus de chances de survie que d'autres.
On en vient là aussi à la question de l'intelligence du chat. Les travaux sur cette intelligence sont relativement rares par rapport à ce mené chez le chien. Alors, déjà,
fait,
comment
oui.
expliquer cet état de fait?
Alors ça a été un grand questionnement au début de ma ma carrière d'éthologue parce que vraiment j'étais ébahie par l'absence, quasiment l'absence totale de littérature scientifique sur le chat. Et donc j'avais interrogé des collègues qui travaillaient notamment sur le chien en leur disant « Mais pourquoi ne t'es-tu jamais intéressée au chat ?» Et mes collègues me répondaient de manière assez unanime « Si, on s'est intéressé au chat, on a fait quelques tests, mais franchement je ne referai plus jamais parce que le chat est un animal qui a des difficultés à coopérer dans les tests qu'on lui propose en tout cas. » Donc parfois, on essaie de mettre en place des tests qui soient vraiment appropriés à l'espèce avec laquelle on travaille. Mais le chat reste un animal très indépendant qui en fait à sa tête aussi. Et c'est vrai que déjà, rien que de le changer d'environnement, ça peut stresser cet animal alors que le chien, en présence de son maître, va être tout de suite rassuré. Bref, c'est pas évident de proposer par exemple des tests cognitifs à un chat. C'est un autre problème que de proposer ces mêmes tests à un chien.
Alors justement, quels sont les tests cognitifs qu'on peut mener auprès des chats?
Alors, entre-temps, quand même, il y en a eu quelques-uns qui nous ont vraiment éclairés sur l'intelligence du chat, notamment un premier test du lien de cause à effet. On voulait savoir si le chat était capable de comprendre s'il y avait un lien de cause à effet entre deux événements, par exemple. Et ça, on a montré que le chien maîtrisait parfaitement ce lien-là. En l'occurrence, l'expérience a consisté à avoir des petites boîtes qui faisaient du bruit. Et quand on secouait la boîte qui faisait du bruit, un objet en sortait. Et quand on secouait une boîte qui ne faisait pas de bruit, rien en sortait. Donc il y a une cohérence là-dessus. Et puis après, on complexifiait l'exercice parce qu'on remontrait la scène au chat. Et cette fois-ci, quand on secouait la boîte qui faisait du bruit, rien n'en sortait et inversement. Donc, et les réactions comportementales observées ont permis de démontrer que le chat semblait complètement interloqué dans cette inversion de l'exercice et que donc il maîtrisait le lien de cause à effet. Il y a une autre sphère cognitive qu'on a investiguée qui s'appelle la permanence de l'objet. C'est un nom un peu scientifique dit comme ça, mais c'est un concept très simple. C'est le fait de comprendre qu'un objet continue d'exister même lorsqu'il est caché. Par exemple, je vous montre un objet là, je le cache derrière l'ordinateur. Vous savez que cet objet continue d'exister. Ça nous paraît être un concept cognitif très simple, puisqu'on se dit ça ne semble pas très élaboré tout ça. Le bébé humain ne maîtrise pas ce concept, par exemple avant l'âge de 18 mois, 24 mois. Donc c'est dire que ce n'est pas quelque chose de si simple que ça. Et là encore, on a des expériences scientifiques qui ont montré que le chat maîtrise cette permanence de l'objet. Et puis on a un concept encore plus élaboré qui s'appelle la théorie de l'esprit. Alors la théorie de l'esprit, au départ, on l'a testée uniquement chez des espèces réputées pour leurs facultés cognitives extrêmement complexes, comme les grands primates par exemple. Donc cette théorie, elle stipule que qu'un être va attribuer une croyance à un autre être sur la simple base des indices perçus sur son corps. Alors, dit comme ça, encore une fois, ça paraît compliqué. Mais l'expérience qui a été faite sur le chat, qui a été menée par Miklosi, qui était à la base un spécialiste de l'intelligence du chien aussi, qui a beaucoup travaillé sur le chien, et il a montré que le chat était capable de comprendre notamment le pointé du doigt chez l'homme. Alors le pointer du doigt, c'est quoi? C'est montrer un objet avec son index et dire « suis cette direction pour aller vers cet objet ». Là encore, en tant qu'être humain, on se dit « c'est super simple, c'est facile ». Alors qu'en fait, ça nécessite pour le chat déjà de comprendre la gestuelle de l'être humain et de comprendre que finalement, d'attribuer une croyance à l'être humain qui est « je détiens un savoir, je suis en train de te montrer quelque chose et dirige-toi vers cette chose-là ». Et le chat comprend parfaitement ce pointé du doigt et à partir de là, on en a déduit qu'il bénéficiait de cette théorie de l'esprit.
On vous demande souvent si le chat est plus intelligent ou moins intelligent que le chien. Alors je crois que c'est difficile de répondre, mais le cortex d'un chat compte 250 millions de neurones contre 530 millions chez le chien, donc c'est deux fois moins.
Oui, alors la question de la hiérarchisation des capacités cognitives au sein du règne animal, c'est quelque chose qui a fait l'objet de nombreux débats dans le milieu scientifique. Il y a plein de chercheurs qui sont intéressés à ces questions-là. On a essayé de mesurer la taille du cerveau, la proportion de la taille du cerveau par rapport au corps. Et plus récemment, on a cette chercheuse qui a mesuré, quantifié la masse neuronale, si vous voulez. Elle a broyé des cerveaux de chiens et de chats et elle est allée compter en fait le nombre de neurones qu'il y avait dans ces cerveaux-là. Et donc, suivant ses résultats, elle estime qu'effectivement, il y a plus de neurones dans le cerveau d'un chien que dans le cerveau d'un chat. Mais on n'oublie pas, en tant que scientifique, qu'au-delà des neurones, on a aussi tout un réseau de ce qu'on appelle les connexions neuronales qui sont extrêmement importantes dans les capacités cognitives. Donc, on pense que c'est une des mesures, on dirait, les plus fiables qu'on ait pour mesurer l'intelligence d'un être, mais
Il y en a beaucoup d'autres.
Il y en a beaucoup d'autres. Et surtout, je continue à dire que l'intelligence dans le règne animal, elle est vraiment plurielle. On cherche toujours à hiérarchiser cette intelligence en se disant tel animal est plus intelligent qu'un autre. Et moi, ma réponse, elle est à l'inverse. C'est-à-dire que chaque animal a sa propre intelligence qui est en général vraiment optimisée par rapport à l'environnement dans lequel il évolue. Et on oublie trop souvent que finalement, avoir une certaine faculté cognitive dans un certain domaine, c'est pas forcément utile pour un animal qui, par exemple, va évoluer en milieu aquatique. Et que par contre, cet animal-là va avoir... une question d'adaptation à l'environnement. Et donc toujours se dire que plutôt que d'essayer de placer dans des catégories et puis d'imaginer qu'on a une espèce de gradation de l'intelligence et d'essayer de caser encore une fois les espèces en fonction de leur niveau d'intelligence, se rappeler que l'intelligence, elle emprunte différents canaux et que vraiment l'évolution a bien fait les choses et que chaque espèce est intelligente à sa manière.
Alors, ce qui est fascinant chez le chat, c'est aussi sa perception du temps. Le chat est très ponctuel.
Oui, alors la perception du temps, ça c'est quelque chose qui a été investigué assez finement par une équipe de chercheurs chez le chat. Ils ont proposé des petites... c'est basé sur ce qu'on appelle dans notre langage du conditionnement opérant. Donc ils apprennent au chat à sortir d'une cage, à se diriger vers un bol à droite, un bol à gauche en fonction du temps pendant lequel il a été enfermé dans son petit box. Et en fait, au départ, ils font différencier au chat des quantités de 20 secondes versus 8 secondes, donc ils sont assez quand même distanciés. Et finalement, il leur propose des plus fines quantités de temps et on se rend compte que le chat il est vraiment capable de faire la différence, par exemple, entre 5 secondes et 7 secondes. Alors, comment ça fonctionne, ça ? Il n'est pas forcément du tout en train de compter le temps de manière consciente, mais on a tous, en tant que mammifères, ce qu'on appelle une horloge biologique interne qui nous permet de quantifier le temps à l'instant T. Et alors, tous les êtres humains ne racontent pas la même anecdote, mais pour mon cas, par exemple, moi, je me réveille systématiquement quelques secondes avant que mon réveil ne sonne. Donc, il y a effectivement pas mal de facteurs externes qui, certainement, enclenchent le processus de réveil chez moi. Ça peut être la lumière du jour, etc. Mais on sait, nous-mêmes, quantifier le temps de manière inconsciente et de manière extrêmement précise.
Comme potentiellement les chats.
Comme les chats.
Ce qui nous relie à eux. Les chats ont aussi des pouvoirs extraordinaires. On va le voir, on va en parler. Restez avec nous tout de suite, Cat Power sur RFI.
Thank you.
autour de la question « Que se passe-t-il dans la tête d'un chat ?» Mais le chat est-il vraiment un animal domestique finalement? En tout cas, il fascine d'autres éthologues comme Bertrand Depute, que vous connaissez bien, Jessica Serra, ancien directeur de recherche au CNRS. Il travaille sur le comportement social et les capacités cognitives des espèces animales domestiques. Au micro de Raphaël Constant, il revient sur notre relation au chat.
Pour moi, c'est le carnivore domestique pour un éthologiste. Parce que c'est un animal qu'on peut observer sans perturber son comportement. Contrairement au chien qui attend de l'humain et qui cherche à communiquer avec l'humain, le chat, vous faites partie de son environnement, donc de temps en temps, il peut interagir avec vous, mais la plupart du temps, il mène une vie autonome, ce qui permet donc de l'observer. Donc ça, c'est merveilleux d'avoir ces sujets d'études ou ces sujets de réflexion sous les yeux.
Et alors justement, est-ce qu'on peut dire que le chat est réellement un animal domestique?
Pour les chats qui ne sont pas d'élevage, c'est resté une espèce apprivoisée plus qu'une espèce domestique. Parce qu'on ne contrôle pas bien sa reproduction, sauf maintenant avec des chats d'élevage, mais la grande population des chats mène une vie assez autonome et l'humain ne contrôle rien. La seule chose qu'il peut contrôler, c'est maintenant de stériliser les mâles ou les femelles.
Et par rapport à d'autres espèces, d'autres animaux, est-ce que la relation de l'homme avec le chat est particulière?
Oui, je pense qu'elle est particulière parce que pour moi, le chat est un mendiant opportuniste. Donc il mendie sa nourriture, mais il est capable de se débrouiller parfaitement tout seul. Et il recherche le confort et il ira chaque fois là où il y aura du confort. Et il peut y avoir de la nourriture à plusieurs endroits, il peut y avoir du confort à plusieurs endroits. Et il choisira en fonction de ses motivations. Je dis souvent, pour le chat, nous on est un radiateur à 35 degrés qui a une odeur familière.
Et pourtant, l'homme vit depuis longtemps à côté du chat.
Non, c'est le chat qui vit depuis longtemps à côté de l'homme, comme une espèce qui a aidé l'homme, ça c'était chez les Égyptiens, à manger les rongeurs qui, eux, colonisaient les réserves de grains que l'homme avait constituées.
Est-ce que vous auriez une question pour l'invité d'autour de la question, Jessica Serra?
Qu'est-ce qu'on va faire maintenant des chats qui vont être des chats d'élevage et dont les gens souhaiteraient qu'ils ne restent qu'en appartement? Quel impact ça peut avoir sur le chat et en particulier sur le bien-être du chat?
La question du bien-être du chat en appartement, notamment, se pose hein, alors que rien qu'en France, nous possédons 11 400 000 chats.
Alors d'abord, je salue Bertrand, qui est un collègue et ami et qui doit probablement nous écouter en ce moment. Et merci pour sa question. Alors la question du bien-être du chat en captivité, effectivement, qui vit dans un appartement, elle se pose réellement aujourd'hui parce qu'elle est de plus en plus fréquente. Hein. C'est-à-dire que le mode de vie de plus en plus urbanisé des êtres humains impose aussi des contraintes qui sont énormes pour cet animal qui a normalement l'habitude d'évoluer dans des espaces, on va dire dans de vastes espaces, et à qui l'on demande finalement d'être enfermé entre quatre murs. Alors comment, on va dire, résoudre les problèmes comportementaux qui pourraient arriver dû à ce confinement? On a tout un tas de stimulations qu'on peut mettre en place. Hein, pour... L'idée, c'est vraiment d'offrir un équilibre sensoriel et cognitif à notre animal, parce que le plus gros risque, finalement, de vivre dans un environnement enfermé, c'est l'hypostimulation. C'est que finalement, on est un animal qui vit dans un environnement qui soit pauvre en stimulation, qui s'ennuie. Et de toute façon, on tend, et je le souligne dans mon livre, vers une espèce qui est de plus en plus néoténique, pour répondre à la question de Bertrand. Ça signifie que l'homme exerce de telles contraintes sur son animal que finalement ça nécessite pour le chat d'avoir déjà un plus haut degré de tolérance sociale, puisque souvent on impose à l'animal de vivre avec plusieurs autres congénères et dans des endroits de plus en plus petits. Première chose. Et on lui demande aussi parfois de ne plus pouvoir accéder à l'extérieur. Donc c'est à l'être humain de trouver des solutions palliatives pour justement enrichir le milieu de son animal. Alors ça peut passer par des étagères murales pour que le chat puisse explorer les trois dimensions de son environnement. C'est des jouets. Aujourd'hui, il existe tout un tas de jouets différents, notamment des jouets interactifs qu'on peut laisser en l'absence du propriétaire, parce qu'il faut penser aussi qu'il y a ce temps d'absence du propriétaire qui peut paraître extrêmement long pour un animal animal qui reste enfermé dans l'appartement et c'est respecter véritablement ses besoins. On sait qu'on peut optimiser l'espace dans un appartement pour que finalement le chat puisse explorer toutes les dimensions de cet espace qui lui est dédié.
Et cette question du bien-être se pose d'autant plus que les chats, on le sait, sont des êtres émotifs. Alors, est-ce qu'ils sont capables d'empathie ? C'est une question qu'on se pose beaucoup.
Alors, toutes les émotions qu'on appelle les émotions primaires, ça, on a montré évidemment leur existence chez le chat, donc la joie, la tristesse, la colère, la peur, et on a même démontré assez récemment d'ailleurs l'existence de l'anxiété de séparation, parce que un chat peut être attaché à son maître et présenter des signes de stress en l'absence de son maître, donc c'est quelque chose qui existe chez le chat, comme chez le chien d'ailleurs. En ce qui concerne la question de l'empathie, ça a été investigué. Alors déjà, pour simplifier la chose peut-être un peu, mais l'empathie, elle existe déjà souvent dans la relation maternelle chez les mammifères, parce que c'est un lien extrêmement fort d'attachement qui va se faire entre la mère et ses petits et qui du coup nécessite une empathie. C'est-à-dire quand un petit chaton par exemple est prélevé du panier et qu'on le met à quelques mètres, le chaton va se mettre à vocaliser et immédiatement la mère est extrêmement réceptive à ramener son chaton au nid. On sait que l'empathie existe pendant cette période clé du lien maternel. Est-ce à savoir si l'empathie existe entre le chat et les êtres humains ? Ça, c'est une autre question que je me suis posée et que j'ai citée dans mon ouvrage par une expérience scientifique qui a été menée par des chercheurs qui propose au chat leur propriétaire qui va exprimer soit une mine joyeuse, amicale, soit une mine renfrognée d'une personne qui est très en colère. Et ce qui montre, c'est assez rigolo comme expérience, mais c'est que les chats de ces propriétaires vont tout de suite ajuster leur comportement. C'est-à-dire face à une mine joviale, ils vont solliciter l'interaction, réclamer des caresses. Face à une mine colérique, ils vont se carapater et puis aller à l'autre bout de la pièce.
Donc ils vont percevoir les émotions sur le visage du
chat. Exactement. Et ajuster en plus leur comportement. Néanmoins, dans cette étude, les chercheurs ne concluent pas forcément à l'existence d'une empathie parce qu'ils pourraient très bien avoir appris à reconnaître certaines émotions chez l'être humain et par conditionnement associatif, finalement, se dire « là, je sais que celui-ci il me paraît plutôt réceptif, donc je vais y aller. Cette mine-là, je la reconnais, elle ne me plaît pas trop, je sais que ça va être pas un moment sympa pour moi, je l'évite. Pour autant, si j'avais à donner mon sentiment profond sur la question, je pense que, étant moi-même propriétaire de chat et pour avoir observé mon propre chat faire preuve, à mon sens, de ce qui pourrait s'apparenter à de l'empathie envers mon enfant, je pencherais pour l'existence de l'empathie envers l'être humain.
Alors, parmi les pouvoirs extraordinaires du chat, on dit aussi qu'il est un puissant thérapeute, un antidépresseur pour les hommes qui les côtoient. Qu'est-ce qui reste encore méconnu chez le chat ?
Alors, j'ai voulu aborder beaucoup de ces pouvoirs justement extraordinaires parce que ils sont entourés de mythes et apporter un petit peu de science à démystifier ce qui était vrai, ce qui l'était moins, etc. Il y a beaucoup de choses qui restent à investiguer chez le chat. On en est encore aux prémices de nos investigations sur la cognition chez le chat, sur les émotions notamment. Il y a encore tout un tas de choses qui nous restent à investiguer. Bref, on a beaucoup progressé cette dernière décennie sur nos connaissances et j'ai souhaité compiler un peu toutes ces découvertes scientifiques dans mon ouvrage pour justement apporter au lecteur beaucoup d'éclairage scientifique et les nouveautés
sujet qui intéresse beaucoup.
Voilà, mais il nous reste encore beaucoup à faire.
Merci beaucoup Jessica Serra d'être venue jusqu'à nous partager quelques-unes des connaissances dont la science dispose aujourd'hui, car il y en a sur le chat, de quoi nous rendre un peu plus humbles et puis à l'écoute de ces animaux que l'on côtoie. Très souvent, vous publiez l'ouvrage « Dans la tête d'un chat » aux éditions Humaine Science. Et nous avons, amis auditeurs, plusieurs exemplaires du livre à vous faire parvenir. Si cela vous intéresse, vous pouvez dès maintenant nous écrire en message privé sur notre page Facebook autour de la question. Demain, autour de la question « Quelle vie sauvage dans nos océans ?» plongée dans des fonds largement méconnus à la rencontre de la vie partout présente, d'une diversité incroyable et pourtant menacée aujourd'hui. À demain.
À personnalité exceptionnelle, journée exceptionnelle.
Bonjour, c'est Fally Ipupa.
Deux semaines avant son concert à l'Accor Hotel Arena, RFI vous propose ce mardi une journée spéciale consacrée à l'artiste congolais Fally Ipupa. toute la journée, il est l'invité des grands rendez-vous de RFI et revient sur sa carrière, ses passions et ses engagements.
Je vous donne rendez-vous, c'est mardi 11 février sur RFI.
RFI, la sélection du mois.
Pomme.
Sunkin top majumor